bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Lux Radio. Heure essentielle se poursuit et c'est le moment de retrouver votre rendez-vous, mon corps, ma vie, avec Hichem Benabastarji, un gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de votre invitation, comme toujours.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui aux phlébites en gynécologie. Alors, avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite bien sûr les auditeurs à poser leurs questions et à réagir sur notre application Lux Radio. Hichem Benabastarji, première question, qu'est-ce qu'une phlébite et quelle différence entre une phlébite superficielle et une phlébite profonde ?
Alors, une phlébite, c'est une coagulation d'une veine, c'est-à-dire la veine qui se bouche par un caillot. D'accord. Alors, il y a des veines superficielles.
Un caillot de sang.
Un caillot de sang, tout à fait. C'est-à-dire la coagulation de caillots de sang qui va coaguler à l'intérieur d'une veine et boucher. Alors, comme on a des phlébites superficielles, des veines superficielles, et ben, si elles se bouchent, on parle alors de veinite. D'accord. Et elle est rouge. On la voit. C'est pas du tout grave. Par contre, la phlébite, ça concerne les veines profondes. Et ce caillot de sang, donc quand il va se boucher, donc le retour veineux va être donc impacté. Donc le membre, généralement quand ça survient au niveau des membres inférieurs, le membre va se gonfler parce que justement il n'y a plus de retour veineux. Mais donc ça donne déjà mal, c'est grave parce que ce membre se gonfle. Mais surtout, ce caillot peut se détacher. Ce caillot de sang et aller dans la circulation générale. Mmh. Et là, ça peut aller au poumon, donner ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, qui peut être mortelle, parce que c'est un gros caillot de sang qui va arriver au niveau des veines, du poumon, et boucher l'arrivée du sang, et donc le sang.
Donc ça, c'est une complication de la phlébite profonde, on va dire. Donc, Hichem Benabastarji, vous venez de dire que la phlébite superficielle était considérée, on va dire, comme une anomalie bénigne, c'est pas très grave, alors que plus récemment, elle a été quand même associée à un risque de thrombose veineuse profonde multiplié par 6.
Je dirais que moi, je parlerai des phlébites en gynéco-obstétrique, mais la phlébite superficielle peut toucher beaucoup de veines, plutôt au niveau des bras, ça peut être aussi lié à infectieux. Peut-être que ce n'est pas tellement ma spécialité, c'est plutôt l'angiologue qui vous répondrait. Peut-être que quand on a un terrain pour faire des phlébites superficielles, peut-être qu'on aurait plus tendance à faire des phlébites profondes.
Très bien,
mais
donc, il faut faire attention.
Ce n'est pas vraiment ma spécialité. D'accord. Moi, je dirais la phlébite profonde, la thrombophlébite, donc elle est beaucoup plus grave parce qu'il faut la prévenir, parce qu'elle peut survenir soit sur un terrain particulier quand vous avez des anomalies de coagulation. Et donc, il y a des terrains familiaux où parce que on a un sang qui coagule plus facilement, on est plus prédisposé à faire des phlébites.
Donc, ça peut être héréditaire, c'est cela?
Ça peut être héréditaire, justement, il y a plein de maladies de la coagulation qui vont entraîner des phlébites, soit suite à un facteur particulier, soit un alitement prolongé, post-opération, post-fracture, sur un terrain particulier, il faut savoir que la contraception augmente, les œstrogènes augmentent la coagulation du sang et donc augmente le risque de phlébite, la grossesse aussi. Je dirais que le risque de phlébite chez une femme normale qui n'est pas enceinte, il est de 2 pour 10 000. Donc, c'est vraiment très rare, 0,2%. La grossesse augmente ce risque de 30 fois et on a une phlébite sur 6 000. Pardon, 6 phlébites sur 1 000. Vous voyez, c'est beaucoup plus important.
D'accord.
Donc, voilà.
Très bien. Donc là, c'était un petit peu les situations qui favorisent la survenue d'une phlébite. Donc vous avez cité l'allaitement, vous avez cité aussi la grossesse, etc. Donc il y a aussi des maladies, des antécédents. Est-ce qu'on pourrait, on va dire, détailler davantage le lien entre phlébite et pilule contraceptive qui est un facteur justement de risque?
Un grand, grand domaine et grand, grand sujet de débat et qui fait peur aux gens. La pilule augmente les facteurs de coagulation par rapport au foie. D'accord? C'est-à-dire les facteurs qui vont donc faire que le sang coagule plus ou moins. Il y a environ plus de 13 facteurs, facteur 2, facteur 5. C'est toute une cascade de la coagulation. Donc la pilule, en agissant sur le foie, fait travailler plus, augmente ce facteur. Le sang devient plus coagulable, il devient plus coagulable. Et donc, on a différentes générations de pilules. Plus la dose d'œstrogène était importante et plus le risque de phlébite était important. D'accord? Mais encore une fois, ce risque, il faut le relativiser. Je vous dis, la pilule augmente le risque de 2, de 3, de 5 fois. Maintenant, 2 pour 10 000 fois 5, on monte à peine à 5, à 1 pour 1 000. Vous voyez? Donc, en termes de risque relatif, oui, c'est important. Mais en termes de risque absolu, en termes de constatation, il n'y a pas beaucoup. Mais il faut le craindre. Et notamment, quand on prescrit une pilule, il faut s'assurer que cette femme n'a pas d'antécédent de phlébite, n'a pas de terrain particulier familial de phlébite, qui contre-indiquerait une pilule œstroprogestative. Je parle des œstrogènes. Alors, il s'est avéré aussi ces derniers temps qu'il y a des générations. Alors, pardon, je dirais autre chose, c'est qu'on a baissé ce risque de pilule en baissant la dose des œstrogènes. Et on est parti à des pilules mini-dosées, qui ne contiennent plus 50 gamma d'œstrogènes comme avant, mais on a des pilules à 20 gamma, 20 microgrammes. Maintenant, on a rentré d'autres risques particuliers. Et c'est là où on va parler de génération de pilules, notamment par rapport au progestatif, le deuxième composant de la pilule. Il s'est avéré que les pilules de troisième et de quatrième génération, avec des progestatifs, je dirais, plus modernes, découvertes dans les années 80, ou peut-être 90, eh ben, les pilules de troisième ou quatrième génération avaient plus de risques de phlébite que les pilules de deuxième génération, avec ce qu'on appelle du lévonorgestrel, c'était le progestatif qui était utilisé, les anciennes pilules des années 60 et 70, et que donc ça a fait polémique il y a quelques années en France, où on disait il ne faut plus les pilules de troisième et de quatrième génération sont un peu plus dangereuses que les pilules de deuxième génération, et donc il ne faut pas les prescrire qu'en deuxième intention. Mais maintenant, je reviens à ce risque relatif. La
Donc
pilule augmente, je dirais,
c'est une
de fois
position qui est
3.
maintenue aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. C'est un
Ah,
constat qui est
tout à fait.
maintenu.
En France, oui. Tout à fait. En France, vous ne pouvez pas prescrire une pilule de troisième génération en première intention. Il faut d'abord passer par une deuxième ou avoir un justificatif pour le placer. D'accord? Mais encore une fois, je veux relativiser ce risque parce que le risque d'une pilule de deuxième génération, il est de fois 3. Je dirais donc qu'on passe de 2 pour 10 000 à 6 pour 10 000, alors que le risque d'une pilule de troisième génération, il est 2 fois 5. On passe de 2 pour 10 000 à 10 pour 10 000, donc à 1 pour 1 000. Ça reste relatif, vous voyez? Mais voilà les statistiques, qu'est-ce qu'elles donnent? Mais ce que je voudrais passer comme message, c'est que la pilule n'est pas un bonbon qui se prend comme ça et que donc on a besoin d'une consultation chez le médecin avant de prescrire une pilule pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a pas de risque particulier.
Très bien,
D'accord?
très bien. Alors, vous me
Voilà.
disiez tout à l'heure aussi, Hicham Ben Abbastargi, la grossesse est un facteur donc de risque de phlébite. Que doit-on faire quand on est enceinte et qu'on soupçonne justement une phlébite? J'aurais la même question aussi dans le cas d'une maman allaitante.
Alors justement, il y a la grossesse, il y a aussi d'autres facteurs de risque. L'allaitement prolongé, l'anémie associée à cette grossesse. Je vous dis la grossesse, tout simplement, le risque de phlébite, il est de 6 pour 1 000. Juste du fait que la grossesse, il y a déjà des œstrogènes endogènes et qui donc augmentent le taux de coagulation du sang et donc ce risque de phlébite augmente. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, faire un peu de marche régulière, ne pas trop grossir parce que l'obésité va limiter les mouvements, va limiter les. Donc, favoriser cela aussi. Éviter, traiter une anémie, c'est parce que je vous dis, quand le sang est pauvre en hémoglobine, eh ben, il coagule plus facilement et donc ça favorise les phlébites et se déplacer tout simplement un petit peu. Maintenant, si jamais on est obligé d'allaiter la dame ou dans les suites d'une césarienne, ou bien je vous dis par rapport à l'obésité, on peut prévenir le risque de phlébite en mettant des anticoagulants, c'est des piqûres qu'on va faire, pour justement faire fluidifier le sang et gérer, prévenir ce risque de phlébite. Voilà.
Denis Hacham, vous aviez une intervention?
Oui, alors j'avais aussi entendu dire qu'on conseille aux femmes enceintes hein, de porter des bas de contention, par exemple lors d'un vol en avion, pour justement prévenir ces cas de phlébite. Et justement, je
Tout
voulais
à fait.
aussi vous poser une question. Quel lien, quelle différence faire entre phlébite et varices?
Les varices, c'est justement une dilatation des veines superficielles. Elles ne sont pas inflammées. Elles, tout simplement, elles n'arrivent plus à bien chasser le sang. Et donc, en fait, le sang je dirais, juste stagne. Le sang stagne, mais ne se coagule pas. Il n'y a pas de thrombose, il n'y a pas de caillot qui se forme.
Et justement, Hicham Belabbès Tahagé, est-ce que les varices qui sont, elles, très fréquentes, peuvent parfois se compliquer, justement, de phlébites superficielles?
Alors, ce n'est pas mon domaine pour vous répondre précisément, mais à ma connaissance, non, les varices ne favorisent pas particulièrement le risque de phlébite profonde. Je parle sous réserve de la correction d'un angiologue. Mais ce que je sais, je vous dis a priori non. Avoir des varices n'est pas un risque particulier de faire une phlébite profonde. D'accord? La varice, c'est juste le fait que la veine est trop dilatée, enfin les valvules qui permettent d'éviter que le sang ne revienne sont fatiguées, sont altérées, et donc le sang stagne. Et c'est pour ça que c'est important de mettre les bas de contention, comme vous avez dit, ou de faire de la marche, parce que ce mouvement musculaire, ces bas de contention vont faciliter, vont augmenter le retour veineux, et donc diminuer cette stase. Mm-hmm. Et ça va faciliter les varices, et ça va prévenir également donc les phlébites profondes. D'accord?
Très bien. La phlébite et sa complication redoutée, Hicham Belabbès Tahagé, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, ce sont deux maladies réunies sous le terme de maladie veineuse thromboembolie, qui représente quand même la troisième cause de mortalité vasculaire. Quel traitement pour cette maladie et quelle place pour la prévention qui, paraît-il, est de plus en plus efficace?
Alors, traiter une embolie pulmonaire, c'est vraiment la catastrophe parce que la malade est en réanimation respiratoire et elle peut mourir, SF. Et donc vraiment, à ce moment-là, on va donner donc l'assistance respiratoire, enfin en fonction de l'état clinique, et donner des anticoagulants pour fluidifier le sang et espérer donc ne pas avoir à réanimer cette dame. Maintenant, il y a beaucoup d'emboliques pulmonaires, de la symptomatique où le petit caillot va se boucher mais sans gravité, à, je vous dis, le cas extrême où on a un arrêt cardiaque inopiné. Donc il faut vraiment prévenir l'embolie pulmonaire. Par rapport à ça, dès qu'on constate qu'on a une phlébite, qu'on a un gros membre, on l'a pas dit au début, mais la plupart des phlébites surviennent au niveau des membres, soit au niveau des mollets, soit au niveau des cuisses. Elles sont pas graves, elles se compliquent pas toujours d'embolie pulmonaire, heureusement, mais plus la phlébite monte vers le haut, mais elle monte vers le cuisse et vers la veine cave, enfin le gros vaisseau qui va aller vers le cœur, et plus il y a un risque d'embolie pulmonaire et plus donc il faut être anticoagulé à dose forte et prévenir. D'accord? Et surtout, je vous dis, donner de la prévention par des anticoagulants à chaque terrain à risque, césarienne, post-opératoire. Quand on fait une intervention particulière pour un cancer du col, pour un cancer de l'endomètre, pour un cancer de l'ovaire, même pour un cancer du sein, on peut être amené à donner des anticoagulants. Toute chirurgie prolongée, un plâtre, une fracture où on va immobiliser un membre, pendant 45 jours, eh ben, il faut mettre des anticoagulants pour prévenir cela. Et bon, ce n'est encore pas mon domaine, mais je sais qu'il y a aussi des anticoagulants par voie orale qui facilitent aussi la chose et on n'a plus besoin de faire une piqûre. D'accord?
Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup Hicham Belabbès Tahagé pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Il était question...